dans l'actualité des idées aujourd'hui, quelle idéologie derrière l'expansionnisme de Vladimir Poutine? On en parle avec notre invité, le philosophe et psychanalyste slovène Slavoj Žižek, spécialiste de Hegel et de Lacan, penseur majeur de la gauche radicale, professeur de philosophie à la European Graduate School. Il est aujourd'hui avec nous pour cette grande table des idées. Vous êtes l'auteur, Slavoj Žižek, de « Comment lire Lacan » ou encore de « Comment réinventer Lénine », mais aussi d'essais sur l'époque, comme « Violence, six réflexions latérales sur les forces de la violence dans notre monde », jusqu'à « Pandémie » paru l'an passé, « Pandémie dans la tempête virale » en français, sorti chez Actes Sud, où la crise sanitaire n'était déjà pour vous que le prélude à d'autres crises à venir. Elles sont là. Bonjour à vous, Slavoj Žižek. Bonjour.
Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous.
Alors, vous parlez parfois français, vous parlez parfois en anglais, en fonction de ce que votre pensée...
De Tarzan.
Oui.
Moi, Tarzan, toi, Jane, mais dès que ça devient plus compliqué, c'est mieux que je passe en anglais.
Et pour ce faire, nous avons Michel Slotowski qui sera votre voix française aujourd'hui avec moi dans ce studio, sachant que vous êtes chez vous en Slovénie, à Ljubljana aujourd'hui. Slavoj Žižek, le déclenchement de la guerre en Ukraine, quand elle a commencé le 24 février, cette invasion russe en Ukraine, comment avez-vous réagi? Avez-vous été surpris comme beaucoup d'observateurs?
Non, je ne l'ai pas été, parce que la première chose sur laquelle il faut mettre l'accent, c'est que c'est pas quelque chose de rétroactif, c'est pas une observation rétroactive. Je savais déjà toute la politique de Poutine, au moins au cours des 6-7 dernières années, allait dans la même direction. C'était une préparation cohérente pour quelque chose de la sorte. Pas simplement en Ukraine. J'ai des amis dans l'ancienne Yougoslavie, dans l'ex-Yougoslavie, en Bosnie, en Kosovo. Et ils m'ont tous dit, ils m'ont parlé de ce terrifiant groupe Wagner, officiellement un groupe privé de mercenaires qui était déjà sur place. Personne ne sait absolument pas ce qui va nous attendre. Je pense que Poutine a joué ici un jeu extrêmement primaire. Il a toujours dit la vérité. Mais il comptait sur le fait que on allait prendre ce qu'il disait comme un exercice de rhétorique exagéré pour des négociations à venir, etc., etc. Non, pas du tout. Il était en train de dire la vérité, comptant sur le fait qu'on ne le croirait pas comme étant la vérité. Et là, on voit qu'il était sérieux. Et vous savez ce qui m'a rendu suspicieux? Poutine, il changeait lentement de position. Il y a 10, il y a même 5 ans, il a dit « L'Ukraine est un État indépendant », etc. Aujourd'hui, il nie l'existence même de la nation ukrainienne. Je pense que ça fait partie d'un plan et d'une stratégie à long terme.
Je ne vais pas vous demander, Slavoj Žižek, une analyse, une thérapie à distance, mais vous qui êtes un grand spécialiste de Lacan, si on allongeait Vladimir Poutine sur son divan, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine selon vous? C'est une question qu'on se pose beaucoup en ce moment. Est-il fou? Au contraire, est-il un être de raison qui sait parfaitement ce qu'il fait?
Écoutez, aujourd'hui, il est très difficile de faire la différence entre les deux. Parce que, pour citer Hamlet, dans chaque folie, dans toute folie, il y a une logique, il y a une raison. Donc c'est comme avec les théories conspirationnistes. Oui, elles sont folles, mais une fois que vous acceptez la prémisse, tout suit. Mais si vous me posez la question, c'est une question importante, cruciale. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Moi, je pense que c'est raisonnable. Eh bien, c'est de la philosophie. Vous savez quoi? Ce qui m'a déjà fait entrer en panique il y a plus de 10 ans, il y a deux grands philosophes pour comprendre Poutine. Tout d'abord, Ivan Illin, le théoricien russe des années 20, qui était en faveur d'un nouveau fascisme russe. Il a utilisé le mot fascisme. Et c'était pas une blague. Il n'a pas simplement été officiellement réhabilité en Russie, mais on me dit que ses livres sont réimprimés en centaines de milliers d'exemplaires. Ils sont distribués à tous les bureaucrates, à tous les militaires. Et le deuxième, bien sûr, aujourd'hui, c'est Alexandre Dugin. Et c'est tellement d'une ironie tragique. C'est un faux post-moderne. L'idée, c'est que il n'y a pas de vérité universelle, il y a différentes croyances, nos raisons, notre vérité. Il y a une vérité occidentale, il y a une vérité orientale, etc. Et ces deux personnes ouvertement se proclament plus ou moins fascistes. Et n'oubliez pas autre chose, et je le dis en étant encore communiste, moi, souvenez-vous, lorsque Poutine a déclaré la guerre, quand il a dit « la Russie doit intervenir » et blablabla, et il n'a mentionné qu'un seul nom. Lénine, il a dit, c'est Lénine, les bolcheviks qui ont inventé l'Ukraine. Et Poutine, ouvertement, est en faveur du retour à la tradition de la Russie impériale. Donc, moi, je ne peux pas comprendre les gauchistes qui disent, quoi que fasse Poutine, il est le successeur de l'Union soviétique et les ennemis principaux, ce sont les États-Unis. Donc, voilà. Il faut être compréhensif à son égard. Non! Poutine, c'est pas simplement le vieux fascisme, c'est une nouvelle forme de fascisme. Je n'ai aucun problème à le rejeter totalement, en tant que gauchiste moi-même.
Vous évoquez Dugin, vous évoquez Illin à l'instant, Slavoj Žižek, mais vous avez raison, on se demande quelle idée Vladimir Poutine a derrière la tête. On devrait se demander peut-être aussi quelle idéologie. Alors, moi j'ai lu qu'il affectionnait, que c'était un lecteur de Karl Marx. Vous aussi, ça tombe bien, Slavoj Žižek. Est-ce qu'il l'a vraiment lu ou est-ce qu'il l'aurait mal lu, selon vous?
Whom, if he did read correctly, Poutine, whom? Marx? He didn't read Marx.
Est-ce qu'il a bien lu Marx? Non, il a jamais lu Marx, il a aucune idée de ce qu'est Marx.
Even who reads Marx?
Mais qui est-ce qui lit Marx sérieusement? Même les grands hommes politiques communistes ne lisent pas Marx. Staline n'a quasiment rien lu de Marx. Non. Moi, je sais que les Mao n'avait rien lu de Marx. Je le sais de mes amis chinois. Ce que lit Poutine, ce sont les néocons extrémistes qui croient dans un ordre autoritaire avec un chef qui cherche un soutien dans la religion pour une nouvelle unité nationale. Par exemple, j'ai trouvé une citation dans Illin où il dit « En Russie, les élections, ça ne doit pas être un choix, mais un rituel pour confirmer le lien entre le peuple et les dirigeants. » C'est comme ça, aujourd'hui.
Il y a un discours de Vladimir Poutine, un discours qu'il a tenu en 2007 lors de la 43e conférence sur la sécurité de Munich, que l'on ressort aujourd'hui, que l'on réécoute autrement. Et notamment, dans un extrait de ce discours, il cite Franklin Roosevelt. Je vous propose de l'écouter.
Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt avait déclaré au début de la Seconde Guerre mondiale ou que la paix soit rompue, c'est le monde entier qui est menacé. Ces paroles restent valables aujourd'hui. D'ailleurs, le sujet de notre conférence en témoigne. Les crises globales impliquent une responsabilité globale.
Slavoj Žižek, ces mots de Vladimir Poutine, citant le président américain Roosevelt au début de la Seconde Guerre mondiale, 15 ans plus tard, le président russe a rompu la paix. Donc, le monde entier, si on le croit, est concerné, ou devrait l'être, non ?
Yes, but here, oui. If I may add,
mais si je peux ajouter quelque chose ici,
first, Putin is doing here
tout d'abord, Poutine fait ici ce que tous les fascistes, tous les autocrates font. D'abord, vous attribuez quelque chose à l'ennemi, et ensuite vous le faites vous-même. Vous accusez les Ukrainiens d'être des néo-nazis, etc. Peut-être, oui, il y en a. Il y a des groupes marginaux tels que ceux-là. Il y en a aussi en Russie. Mais ce qui m'inquiète dans cette nouvelle folie d'aujourd'hui, c'est ce que dans un texte j'ai appelé le passage de la guerre froide à la paix chaude. Je pense que Poutine a fait une déclaration qui est une horreur pure pour moi il y a quelques jours. Il a dit, mais nous, en Russie, nous tenons à nos contrats, nous livrons le pétrole, nous livrons le gaz, etc. C'est sa vision de la géopolitique européenne. Il y a une guerre en Ukraine, mais tout autour, il faut faire comme si rien de grave n'arrivait. La vie continue comme normalement. C'est vraiment quelque chose de totalement pervers. C'est sa vision. Et je voudrais aller un pas de plus en avant. Vous savez, ce qui m'a horrifié un peu, si la réaction de certains commentateurs occidentaux qui soudain s'ouvrent aux réfugiés ukrainiens, il faut les accueillir, etc. Mais ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est que maintenant, ils découvrent que Poutine est un criminel de guerre, a bombardé Kiev, etc. Je suis d'accord, mais ça leur a pris un certain temps pour le découvrir. Souvenez-vous, c'était quoi, il y a 3 ou 4 ans, quand Poutine sauvait le régime de Assad en Syrie, les avions russes ont bombardé Alep, une des plus grandes villes de la Syrie, de façon beaucoup plus brutale que ce qu'il fait actuellement, ces bombardements à Kiev. Où étions-nous alors ? Le danger que je vois, et c'est pour ça que je suis tellement suspicieux au sujet de la rhétorique, de la défense, de l'Europe civilisée, etc. Non, on devrait plus que jamais adopter une attitude universaliste, universelle, et ne pas permettre à cette idée que nous défendons spécifiquement la civilisation européenne. Si on fait ça, on parle déjà la langue de Poutine et de Douguine. Non. Plus que jamais, nous devons être en faveur de l'universalité. Qu'est-ce que ça signifie ? Entre autres choses. J'étais tellement choqué, pour moi, un des véritables héros de l'événement. Des milliers de mes amis sont totalement terrorisés. En Russie même, ils n'osent pas rester chez eux. Ils savent qu'ils vont être arrêtés. Mais ils sortent encore manifester, dire la vérité sur les médias. Ça, c'est une leçon pour tous, pour nous tous. Eux, c'est pas des internationalistes dans l'abstraction. Ces gens-là sont les vrais patriotes russes. Nous devrions absolument garder des liens avec eux, avec les gens qui manifestent là-bas. Il y a beaucoup de civilisation en Russie. Il y a beaucoup de barbarie de notre côté. Ceux qui pensent encore que Poutine est en faveur de tradition gauchiste. Mais non, regardez qui Poutine a soutenu en Occident. Salvini, aidant Marine Le Pen en France, etc. Il est clair où se trouve Poutine. Il est clair. C'est évident. C'est pour ça que je n'aime pas cette phrase Ceux qui tentent d'être trop intelligents aujourd'hui disent que, oh, mais la situation est beaucoup plus complexe que ça. Bien sûr que c'est beaucoup plus complexe. Bien sûr, on ne peut pas faire confiance aux informations ukrainiennes, bien sûr, mais la vérité de base, le choix absolu est très clair. Et parce que nous avons affaire avec des néofascistes, la gauche devrait être la première à le dire. Et je dirais même plus en disant que la cause de la paix et de la négociation, ça suffit pas, bien sûr. Il faut faire attention de pas faire quelque chose qui pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Mais on peut faire tellement d'autres choses, donner des armes aux Ukrainiens, etc. Vous savez ce que ça signifie pour la paix? Tout le monde est en faveur de la paix. N'oubliez pas que Poutine lui-même appelle cela une opération de maintien de la paix contre le génocide. Eh bien, votre propre exemple, lorsque l'Allemagne a occupé en 1940, a occupé la France, ils étaient sincèrement en faveur de la paix, bien sûr. Ils nous occupaient pour la paix. Quand, dès qu'ils ont ce qu'ils veulent, dès qu'ils ont occupé les pays, bam, là, ils veulent la paix. Donc les appels à la paix ne suffisent pas. Il en faut plus.
Oui, vous êtes d'accord peut-être en ce sens avec votre camarade français, le philosophe Étienne Balibar, qui dit cette semaine sur Mediapart, c'est une guerre européenne, le pacifisme n'est pas une option.
Oui, exactement. Et là où je suis aussi d'accord avec lui, c'est que bien que ça ne soit pas une guerre totale, et espérons que ça ne le devienne pas, il faut simplement accepter le fait que, dans un certain sens, nous, Europe occidentale, nous sommes déjà en guerre avec la Russie maintenant. C'est toujours une guerre par personne interposée, mais on ne devrait pas accepter cela. Cette propagande russe qui dit « Ah, si vous faites ça, ça sera la guerre ». Non, c'est déjà la guerre. Et vous savez, quelle déclaration m'a choqué. Sergueï Lavrov, quand on lui a demandé « Mais que veut véritablement la Russie ?» pendant un moment, il était un petit peu trop ouvert, trop franc. Il a dit « Idéalement, tout l'Ouest de l'Europe devrait être démilitarisé. » Mais c'est ça le but. Souvenez-vous, il est déjà clair depuis plus de 10 ans. C'est ce qui unit Poutine et Trump. Leur ennemi, ce ne sont pas les pays européens. Leur ennemi, c'est simplement l'Union européenne. Et maintenant, cette union devrait être renforcée à tout prix. C'est à nouveau ce que certaines personnes négligent.
Slavoj Žižek est notre invité jusqu'à 13h30, penseur majeur de la gauche radicale, philosophe et psychanalyste slovène. Vous écoutez La Grande Table des Idées sur France Culture.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
2 millions d'Ukrainiens ont quitté le pays depuis le début de l'offensive russe du 24 février, Slavoj Žižek. Vous questionnez notre empressement à les accueillir, à faire preuve de solidarité, très différent de celui manifesté jusqu'ici par les Européens à l'égard des réfugiés afghans, sans parler des migrants africains par exemple. Un double standard de l'Europe sur les réfugiés, écrivez-vous, dites-vous dans une tribune parue dans l'Obs. Un double standard et des pays qui sont moralement sourds et géopolitiquement stupides à travers ce double standard. Pourquoi vous êtes choqué a priori par cette réaction des Européens? Quelle est pour vous l'absence de réflexion à moyen voire à long terme?
I think that we are
Je pense que nous avons pris l'habitude dans notre vie quotidienne, comme Louis Althusser l'aurait dit, c'est de l'idéologie incluse dans ce que nous faisons dans notre vie quotidienne, que les horreurs se produisent ailleurs. Et nous occupons de la peine, on est en sympathie avec ces gens-là, mais ces choses-là ne devraient pas se produire ici. Et je pense que c'est notre grande erreur aujourd'hui, c'est notre grand test aujourd'hui. Est-ce qu'on va continuer de penser comme ça? Les horreurs se produisent là-bas, nous on les regarde bien assis devant nos télés, mais le danger c'est que ça vienne ici. Où est-ce qu'on devrait en tirer la leçon exactement inverse? Ce qui s'est produit là-bas, eh bien ça vient ici, ça vient chez nous. Donc, ce que je pense, comment dois-je clarifier ma position? Est-ce que mon idée, c'est pas simplement d'ouvrir totalement nos frontières? Non. Ça serait trop chaotique, ça mettrait le chaos. Mais il faut repenser notre approche. Par exemple, avec les pays arabes, où il y a beaucoup de réfugiés qui viennent de là-bas. Maintenant, il est temps de réfléchir à ce que nous avons fait de mal, nous, l'Occident, sans notre intervention en Libye, sans l'intervention américaine en Irak, sans les interventions des grandes puissances en Syrie, il n'y aurait pas eu de réfugiés. Le modèle, pour moi, c'est l'Afghanistan. C'est merveilleux de regarder maintenant les documents sur la vie quotidienne en Afghanistan dans les années 60, avant que les communistes prennent le pouvoir, avant que les communistes interviennent là-bas. C'était un pays très tolérant. Des choses incroyables se produisaient là-bas. Des pays qui se normalisaient, des pays qui passaient de l'intégrisme vers des gens éclairés dans les grandes villes. Non, en soi, l'Afghanistan n'était pas un pays fondamentaliste. Ce pays est devenu fondamentaliste comme résultat final de la façon dont nous sommes intervenus là-bas. Donc, je n'aime pas cette reformulation des crises comme réduction des crises à ce qu'on va faire avec des réfugiés. Non, il faut agir à l'avance. Pourquoi les réfugiés viennent ici? Qu'avons-nous fait de mal dans ces pays-là? Nous avons besoin d'une façon de penser plus radicale. Et autre point avec lequel j'ai des problèmes avec cette question des réfugiés du Moyen-Orient ou des pays africains. Vous savez que c'est vraiment des filières de gangsters qui prouvent que la plupart des réfugiés des pays du Moyen-Orient et d'Afrique, ce ne sont pas ceux qui, les pauvres et ceux qui souffrent. Ça coûte très très cher de payer les passeurs. Ça coûte des milliers d'euros. C'est la classe moyenne privilégiée principalement qui vient, et principalement des gangsters aussi, parce que ceux qui souffrent véritablement restent sur place. Donc, il faut changer notre approche.
Il faut repenser le sens de nos actions, vous dites, et prendre, tirer les leçons de l'histoire. Mais vous dites, il faut aussi regarder l'avenir, éviter le choc des blocs, penser à un monde plus multipolaire. Il faut défendre l'Europe et convaincre les pays du tiers-monde que les modèles chinois, le modèle russe, ne sont pas les seuls ou la seule voie à suivre, la seule voie possible. Hein. C'est aussi ce que vous dites, vous, Slavoj Žižek, aujourd'hui.
Oui, yes, but oui. But you know, words are not enough here.
Mais les mots ne suffisent pas ici. Vous savez, dans cette époque étrange dans laquelle nous vivons, je vais vous donner une métaphore un peu vulgaire, une sorte de plaisanterie, mais elle est dirigée contre moi. Vous savez ce que sont les obsessionnels névrosés. Ils parlent trop, ils parlent sans arrêt. Donc, pour que rien ne se produise, Le modèle, c'était, vous vous souvenez, il y a quelques mois, la conférence de Glasgow sur le réchauffement mondial. Des grands mots, et le résultat, c'était quasiment rien. Nous vivons dans une époque étrange, où nous n'ignorons pas les problèmes. On en parle, on se plaint tout le temps, toujours, tous les jours, on entend ces métaphores. Si on fait rien, eh bien, si on fait pas quelque chose rapidement, il est minuit moins cinq, c'est le désastre. Mais d'une certaine manière, on est dans une apathie bizarre. On parle comme si parler suffisait, comme si rien ne se produira. Mais la véritable tragédie de cette guerre, pour moi, c'est que maintenant, si pour aucune autre raison autre que pour des problèmes environnementaux, l'unité mondiale, et je suis pas un utopiste avec un gouvernement communiste mondial, mais une véritable coopération, une collaboration est nécessaire plus que jamais. Le réchauffement global, c'est un événement mondial, oui. J'étais à une table ronde hier avec mes amis à Seattle. Ils m'ont dit que cet été sera pareil à l'été précédent. Les températures à Seattle et à Vancouver, dans le nord, jusqu'à 50 degrés centigrades. Et leur politique écologique, là, est assez bonne, elle même très bonne, mais on ne peut pas résoudre ça au niveau local. C'est un problème, c'est une perturbation mondiale de la circulation atmosphérique. Donc pour moi, cette approche, c'est de la folie. C'est pour ça que j'ai aimé le film, j'espère que les auditeurs l'ont vu, je ne sais pas quel était le titre en français, c'est « Don't look up », regardez pas là-haut. C'est un film qui n'est pas contre le populisme trumpien, mais contre nous tous. Parce que quand la catastrophe est clairement annoncée, on parle et on manifeste, etc. Mais on n'est pas prêt à agir. Vous savez, pour conclure avec quelque chose de triste, mais vrai, Lénine pensait qu'une grande guerre peut provoquer une crise qui se terminera par une révolution. La guerre peut être bonne si on l'use dans des buts révolutionnaires. Mais il y a 2 ans, il a été écrit, on a besoin d'un changement radical, révolution ou autre forme, pour prévenir la guerre, pour éviter la guerre. Nous devons tous changer.
Puisque vous nous avez conduit au Canada par les exemples que vous venez de donner, Slavoj Žižek, Don't Look Up, déjà pour préciser, oui, c'est un film qui a été vu et beaucoup vu en France sur Netflix avec le même titre que chez vous. Votre consoeur, la militante Naomi Klein dans The Intercept disait justement « Nous ne vaincrons pas les forces de la nostalgie toxique avec de faibles doses de nostalgie légèrement moins toxique. Il ne suffit pas d'être de retour, et elle parlait de l'Europe, des Occidentaux en ce sens-là, nous avons désespérément besoin de nouveau, de changer le logiciel, d'ouvrir de nouveaux possibles, hein, comme vous l'évoquez aujourd'hui, à l'instant, Slavoj Žižek, avec la crise écologique. Et peut-être avons-nous aussi besoin de nouveaux mots, d'une révolution des mots, Slavoj Žižek. C'est un sujet important pour vous, hein, dans votre matrice, celui de la question des mots, de leur sens, de la rhétorique. Les mots n'ont plus d'effet, disiez-vous à l'instant. Les mots sont vides. Il y a aussi tous ces mots interdits, comme le mot « guerre », en ce moment en Russie, qui n'est pas utilisé. Vous appelez aussi à une révolution des mots?
Oui. And here I do something totally crazy.
Je fais quelque chose de complètement fou, mais je ne voudrais pas apparaître totalement fou. Je vais vous donner la définition précise de ce que je veux dire. Aujourd'hui, tout le monde peut être socialiste. Bill Gates peut dire qu'il est socialiste. Oui, ça veut dire que je m'occupe aussi du bien-être des gens ordinaires. Moi, je suis encore prêt à risquer le mot communisme, parce que même la Chine ne parle plus de communisme. J'ai des amis à Pékin qui disparaissent, parce que ils ont pris le communisme au sérieux. Et il tente d'organiser les travailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est quand les gens me demandent « Mais qu'est-ce que vous voulez dire par communisme? Êtes-vous dingue ?» Je dis « Mais non, je veux dire exactement ce que les grands médias disent, mais personne ne le fait. Nous avons besoin d'une coopération globale, nous avons besoin d'une réglementation des marchés, nous avons besoin d'une économie de guerre en paix. » Ces connexions mondiales, non pas un gouvernement mondial, ça signifie de la folie, mais des liens mondiaux, des coopérations mondiales. On aura encore plus de réfugiés en raison du réchauffement mondial. Comment résoudre ça? Eh bien, même ce que les médias officiels demandent, mais que nos régimes ne sont pas prêts à livrer, à faire. C'est tout ce que je veux dire par communisme.
Une dernière question, Slavoj Žižek. On parle beaucoup des traumas, des traumatismes anciens que réveille cette offensive, cette guerre en Ukraine, et de ce qu'il réveille notamment à l'Est, en Pologne, en Roumanie, dans tous les pays voisins limitrophes de l'Ukraine. Est-ce que cette guerre peut, pour vous, renforcer le sentiment européen aujourd'hui?
Yes, but the problem
is... Mais... Quelle Europe allons-nous défendre? Est-ce que cette vieille Europe nationaliste, représentée aujourd'hui par la Hongrie, par la Pologne, etc., à ce moment-là, à long terme, ça sera un désastre pour l'Europe elle-même, comme je l'ai écrit quelque part. Si cette Europe va le remporter, cette Europe de la défense de la civilisation européenne, alors à ce moment-là, on n'a pas besoin des Russes pour nous vaincre. Il est important que l'Europe, dans le meilleur de ses traditions de l'émancipation, gagne. Oui, nous sommes maintenant au fond d'un dilemme profond. Quelle Europe défendons-nous aujourd'hui?
Et les Slovènes, comment voient-ils les événements? Est-ce qu'il y a une peur de la contagion là-bas?
C'est une crainte, c'est une peur, mais quelque chose de très triste se produit. Le parti de droite nationaliste au pouvoir tente de faire porter le chapeau à la gauche modérée, comme étant pro-Poutine. Et même si la gauche attaque férocement Poutine, il est dit que non, ça c'est juste des mots, vous êtes en faveur de Poutine. Et ils essayent de la façon la plus brutale d'exploiter, de monopoliser la solidarité avec les Ukrainiens. Si ça se produit véritablement, ça devient un désastre.
Merci beaucoup à vous, Slavoj Žižek, d'avoir été avec nous en direct de Ljubljana, où vous vivez aujourd'hui. Merci à vous.
Merci à vous. Merci. Et j'espère que, à un certain moment, je peux de nouveau venir à Paris. Je sais même où il y a, près de Saint-Germain, au Saint-Michel, une très beau hôtel là. Derrière, il y a des restaurants japonais, les grandes librairies. C'est ma maison, je veux revenir là.
Revenez vite nous voir à Paris. Merci beaucoup, Slavoj Žižek. Venez dans ce studio. Merci à Michel Slotowski pour sa traduction. C'est pas facile de traduire, d'interpréter comme vous le faites. Merci Michel, à distance. Un grand merci aussi à toute l'équipe de La Grande Table, à Lucas Bretonnier et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées aujourd'hui, à Oriane Delacroix avec Violaine Malstaff pour La Grande Table culture. À la réalisation, c'était bien sûr Thomas Beau, merci Thomas, avec Nicolas Delmas à la technique.